on Human Rights in Haiti. This hearing has been requested by the Action Citoyenne pour le Respect des Droits Humains, and representatives from the state of Haiti are also present here. The petitioners of the hearing will have 20 minutes for the presentation, and the same for the state. Then the commission will raise some questions for both parties. You have 20 minutes for your presentation.
Merci. Mesdames, Messieurs les commissaires, Monsieur l'ambassadeur représentant de l'État haïtien, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de l'assistance. La CRED est une association de solidarité nationale indépendante créée en 2000 qui œuvre dans plusieurs domaines, principalement celui des droits fondamentaux de la personne humaine, qui a pour engagement de contribuer à universaliser les valeurs de la promotion et le respect des droits de tous et de chacun. C'est ainsi que la CRED intervient à la communauté de Petite Gouave pour défendre une population vulnérable et témoigner de leurs conditions de vie. L'association agit pour l'accès à la justice sans distinction ethnique, sociale, religieuse ou politique. Une solidarité avec toutes les victimes de la misère ou de la violence, une protection des populations et la lutte pour la justice. Contribuer à la participation active des justiciables qui sont en attente d'une justice équitable par une meilleure connaissance de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens. Que faisons-nous? Nous agissons dans le secteur des droits humains avec la population en situation vulnérable de pauvreté et d'exclusion sociale. Nous assistons toute personne qui vit une situation de souffrance physique ou morale due à la violation de ses droits humains. Nous organisons des actions de sensibilisation, de vulgarisation porteuses de changements sociaux ayant pour but la fin des inégalités et des injustices. Nous dénonçons des obstacles à l'accès à la justice et des atteintes aux droits de l'homme et à la dignité de la personne. Haïti, première République noire de l'histoire du monde, après avoir conquis par les armes son indépendance en 1804, Haïti a connu durant deux siècles une succession de régimes autoritaires, de guerres civiles, d'occupations étrangères, de putsch, d'intervention des Nations Unies, 200 ans d'espoir déçu. Début des années, les Haïtiens survivent de la plus grande misère. Ils se sont progressivement adaptés à des conditions de vie extrêmement difficiles. Haïti est un pays exposé à un grand nombre de menaces naturelles. Parmi elles, les menaces d'ordre météorologique, fortes pluies, cyclones, figurent en bonne position. Cyclones et autres systèmes porteurs d'eau peuvent, par les effets dévastateurs, créer de véritables urgences humanitaires. L'agriculture est en déclin depuis des décennies. Maintenant, et ce principalement en raison d'une productivité de plus en plus faible, liée essentiellement à la déforestation et aux aléas climatiques de la région, mais aussi au manque de ressources de la part des agriculteurs et de l'État. Au début de l'année 2006, peu de temps après les élections qui ont mené Préval au pouvoir, la situation oblige les dirigeants haïtiens, la classe politique, les représentants de la communauté internationale, en un mot, toute la force vive du pays, à se mettre ensemble pour trouver un consensus politique aux différents problèmes qui rongent le pays, en particulier la sécurité, la restructuration de la police, l'administration de la justice, la corruption, l'impunité, les développements socio-économiques du pays, etc. Il est important de souligner que bon nombre de ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont profondément enracinés car ils sont le résultat de déficiences structurelles et de faiblesses institutionnelles qui sont la conséquence d'un passé caractérisé de plus de 20 années de vagabondage politique, des régimes despotiques, des crises politiques et des institutions corrompues. D'une manière générale, la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme en 2009 continue de préoccuper sérieusement toutes les organisations de défense des droits de l'homme en Haïti, particulièrement nous, à CRED. Malgré on peut constater une diminution des cas de viol, d'enlèvement et de violence, Bien que la PNH, avec l'aide de la MINUSTAH, poursuive ses efforts pour combattre les crimes de violence et pour appréhender les délinquants présumés. Il y a longtemps que des réflexions ont été faites par des intellectuels, des observateurs, des défenseurs des droits de l'homme autour du renforcement du pouvoir judiciaire. À cet égard, compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire n'a ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour apporter une réponse rapide ou effective aux problèmes que confronte le pays, notamment la détention préventive prolongée, en raison de l'insuffisance des ressources disponibles, du matériel et des infrastructures appropriées pour le pouvoir judiciaire, pour lui permettre de fonctionner comme il se doit et pour que les affaires criminelles soient traitées avec équité. Combien de millions haïtiens qui sont jusqu'ici engloutis dans une prétendue réforme du système judiciaire? N'est-ce pas important de parler de la réforme du pouvoir judiciaire quand la crédibilité de ceux qui sont placés pour rendre justice sont prêtés à équivoque, voire inexistants? Avec des juges et des magistrats corrompus ou des policiers qui sont impliqués ou soupçonnés d'avoir participé dans des affaires d'enlèvement, des cas de viol et de la libération des bandits notoires dans des sous-commissariats sans pourtant rendre compte de leurs actes devant la justice pénale. ACRED continue à exprimer son inquiétude concernant la situation de la sécurité publique en Haïti. Malgré qu'on constate qu'il y a une situation de paix dans le pays, mais une situation qualifiée de fragile, parce que les autorités haïtiennes n'ont pas sapé effectivement la base des problèmes d'ordre structurel qui sont étroitement liés à la question de sécurité dans ce pays. Citons le chômage, la délinquance juvénile, la drogue, qui sont des terrains fertiles capables de générer des sécurités. Mais aussi l'absence de l'autorité de l'État dans des sections communales ou dans les coins reculés du pays, ce qui est une opportunité favorable pour augmenter la fréquence des actes de violence meurtrière. Citons le cas de Bertoni Julien, qui a été trouvé assassiné à Petit-Gouave dans des circonstances difficiles le 28 mars 2009, avec des impacts de balles et des hématomes pour avoir réclamé justice pour sa fille, qui était victime d'un viol de la part des policiers. Ainsi, les cas de viol et la destruction des biens fonciers sont devenus monnaie courante en Haïti. Depuis quelques années, avec le support financier et technique de la communauté internationale, les autorités haïtiennes ont entrepris un certain nombre d'efforts pour renforcer le système judiciaire haïtien. Dans le souci d'améliorer la situation carcérale et permettre à toute la population d'avoir accès à la justice, comme cette dernière le réclame depuis toujours. Les résultats de ces mesures, malgré les dépenses exorbitantes déjà consenties en ce qui a trait de cette réforme, aucun changement réel n'est jusqu'à présent obtenu. En ce qui a trait au respect des droits des prisonniers, l'appareil judiciaire continue de favoriser l'impunité. Les violations des droits de l'homme, certains auteurs de délits, des droits communs, servent encore le deuil et la terreur au sein de la population, au vu aussi des responsables de la justice. Au lieu d'être arrêtés et punis conformément à la loi, d'autres personnes essaient d'être l'objet d'arrestations illégales et arbitraires. Qui disait, le nombre de personnes en situation de détention préventive prolongée tend à augmenter. En résumé, la majorité de la population haïtienne n'a pas encore accès à la justice. Cette dernière reste et demeure encore jusqu'au moment où nous parlons un privilège accessible uniquement à ceux qui peuvent se la payer. Face à une conjoncture politique faite d'impunité, ces sujets devraient être de plus en plus interpellés la conscience des hommes et des femmes partisans d'une société respectueuse des lois et des principes. On est en train d'affirmer que l'impunité était la règle en Haïti. Car dans ce pays, des criminels, il y en a beaucoup. Ils sont là. Ils sont dans la ville chaque jour, plus arrogants, plus agressifs et plus cruels. Ce n'est ni la famille Julien qui vient de perdre deux membres de leur famille à la localité de Petit-Gouave qui nous dit le contraire. À notre avis, les causes de l'impunité en Haïti résultent de l'absence d'une volonté politique pour asseoir la société sur la base des valeurs universelles de justice, de liberté, de démocratie. D'une politique criminelle responsable en matière de violation des droits humains, des carences structurelles des autorités judiciaires, des faiblesses de la police administrative et judiciaire, de l'inaccessibilité des justiciables à la justice, de la corruption au sein de l'appareil judiciaire, de la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Bref, la politisation des institutions clés de l'État. Aucune société solide ne peut se bâtir sans le châtiment des transgresseurs des lois. Haïti aujourd'hui offre au monde entier l'image d'un grand lac d'impunité, où l'autorité publique n'est plus exercée par des hommes politiques, des policiers, des juges, des fonctionnaires, mais par la force de la rue. Aussi, ACRED invite-t-elle toutes les forces organisées du pays et la communauté internationale à conjuguer leurs efforts pour forcer le pouvoir à mettre un terme à cette vanne de sang qui coule quotidiennement et à se pencher réellement sur la satisfaction des revendications de justice et de sécurité du peuple haïtien. Pour qu'un jour, nous puissions arriver à cet état de droit auquel nous aspirons tous. Si dans le monde entier, les gouvernements ont pris charge de la question de la justice, hormis en Haïti, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour comprendre l'histoire de la justice haïtienne. Prenons par exemple l'affaire de Bounet Pierre, qui a été écouée à la prison civile de Pétionville depuis 2006 pour complicité de meurtre. Pendant qu'elle est en train de purger ses peines, elle est victime d'un viol par un agent d'APENA. L'APENA, c'est l'Administration pénitentiaire nationale d'Haïti. Jusqu'à date, elle est à tête de justice. De l'ensemble, Action citoyenne pour le respect des droits humains affirme ses conclusions partielles, selon lesquelles le système de justice en Haïti reste extrêmement inopérant et continue à souffrir des faiblesses fondamentales, surtout avec le manque d'indépendance judiciaire, la corruption, mauvaise condition carcérale, une très mauvaise application des lois et l'absence des juges de la Cour de cassation. La manque d'indépendance judiciaire en 2007, pour faire face à ce problème, une commission spéciale a été créée. Cette commission, qui était composée des membres de la société civile, constitue également un signe d'avance dans la voie de la réforme du droit judiciaire jugée tellement nécessaire. C'est alors trois projets de loi relatifs à l'indépendance du droit judiciaire, le statut des juges et les procédures constitutionnelles à la désignation, au mandat et à la décision des juges ont été votés par les deux chambres en 2008. Malgré tout cela, la situation s'avère plus grave. La police, étant auxiliaire de la justice, ne respecte pas ses limites et ses bornes. Des mises en liberté de la police effectuent pour une petite somme d'argent en absence de la justice. On dirait que la justice est une marchandise des tribunaux en Haïti. La situation des femmes et des enfants confiés avec la loi en Haïti est accablante. En effet, la désaffectation en 2004 de la prison civile du Front National, jadis réservée aux femmes et aux mineurs, tant garçons que filles, a porté les autorités haïtiennes à construire dans le département de l'Ouest, à Delma 33, un centre de carcéral destiné spécifiquement aux garçons et à transférer les filles et les femmes à la prison de Pétionville. Ça, c'est à encourager. Par contre, en ce qui concerne la situation des femmes et des mineurs gardés dans les autres centres de détention du pays, n'est pas différente de celle où l'on ferme les hommes. Ils font face à tous les problèmes récurrents de l'administration des pénitentiaires, à savoir l'insalubrité, promiscuité, le surhomme des cellules, détention préventive prolongée, mauvaise qualité de nourriture, absence de l'eau potable. La non-séparation des détenus, les filles et les fillettes sont fréquemment utilisées comme des partenaires sexuels par les agents d'APENA. Et absence de programme étatique en matière de réinsertion sociale. De manière générale, les femmes et les mineurs ne sont pas exemples du mal chronique qui ronge l'administration pénitentiaire, à savoir la détention préventive prolongée. Car 85% de la population carcérale est en attente de jugement. Sinon aussi, plusieurs dispositifs de jugement ne sont pas signifiés aux personnes ayant eu la chance de passer par devant une instance de jugement. En 2006, sous le chef d'accusation d'un cas de viol, David est reconnu coupable et a été coupé de 6 ans d'enfermement dans un centre de rééducation. Jusqu'à date, il est placé à la prison civile de Delma sans les dispositifs de jugement. Depuis novembre 2008 de préférence, la population carcérale infantile est estimée à 314 mineurs en conflit avec la loi. Il représente 3,18% de la population carcérale, total estimé à cette date à 8323 détenus. Les mineurs sont placés dans 12 des 17 prisons du pays et dans 12 commissariats. 279 d'entre eux sont en détention préventive contre 35 condamnés. La prison civile de Delma, l'unique prison réservée aux garçons mineurs, en compte 198, soit 33% de la population carcérale juvénile. Dans toutes les autres prisons, les mineurs ne sont pas séparés des détenus et des adultes. Les filles logent dans les cellules des femmes. Ici, nous avons avec nous un tableau qui présente le résumé chiffré des mineurs incarcérés dans les différents centres de détention du pays. Je n'ai pas assez le temps de chiffrer tous les chiffres, mais je vais seulement dicter les grands totales. Par exemple, attends-moi un instant. Il y a 255 détenus garçons et 24 filles. En total, en matière de détenus, nous avons en Haïti 79 détenus. Condamnés. Nous avons 30 qui sont condamnés parmi les 219 détenus. 30 garçons, 5 filles qui donnent le total de 35 qui sont condamnés pour ce qu'ils ont reproché en réalité. Qui donc en total, nous avons 285 enfants qui sont condamnés garçons et 229 filles qui sont condamnées. Qui donc sur 279 détenus, il y a 314 qui sont reconnus leur situation respective. Qui donc 285 qui sont en détention préventive prolongée, qui donc 29 seulement qui sont recevus leur peine. Précisons qu'en 2009, il n'y a pas de grand changement de la situation carcérale des mineurs quand on soit avec la loi en Haïti.
Pour conclure, aucun progrès réel ne pourra être effectué en ce qui a trait au traitement infligé.
Merci. Pour conclure, aucun progrès réel ne pourra être effectué en ce qui a trait au traitement infligé aux détenus. Si dans notre mentalité, les peines continuent d'avoir pour finalité la déshumanisation de l'homme et non son passage de l'état de moins en être à celui du plus être, malgré les efforts du gouvernement Préval-Pierre-Louis, en ce qui a trait à des propositions des textes de loi déposés au Parlement et qui ont voté par les parlementaires, mais qui ne sont pas jusqu'à présent en pratique, tels que conçus et administrés dans notre système pénitentiaire, produits du système capitalisme humain, inhumain, les sanctions tendent plutôt à ravaler l'homme au lieu de l'éduquer et de lui offrir la possibilité de recouvrer toute sa dignité. En tant, nous rendons hommage à l'appui précieux de la communauté internationale, à fournir au peuple haïtien pendant le pays se plaindre dans la misère. Cependant, il s'avère important pour que l'État haïtien redéfinisse l'aide et l'intervention étrangère dans le pays. Car, très souvent, les ONG n'interviennent pas toujours aux véritables problèmes que confronte la population. En conséquence, il revient de droit à l'État haïtien de prendre les initiatives destinées à parvenir au développement économique et social du pays, pour assurer au peuple la jouissance de leurs droits économiques et sociaux et aboutir à un état de droit en Haïti. En guise de conclusion, ACRED constate que la situation en Haïti en 2009 s'est caractérisée une fois de plus par les défis énormes et l'incapacité de l'État à assurer une fois de plus au peuple haïtien le respect intégral de ses droits. Le travail est donc immense et les moyens sont très limités. Le devoir de la solidarité entre organisations est pris de même cause et la participation de toutes les forces du pays est nécessaire en vue de continuer à faire pression sur l'État haïtien pour voir la nécessité de respecter les droits fondamentaux du peuple haïtien. En guise de recommandation, ACRED convient les autorités à mettre un terme à la pratique qui consiste à corriger le dossier des prisonniers, ce qui entraîne souvent des confusions au niveau de leur nom. Et de leur chef d'occasion. Cet acte viole les droits des détenus qui n'ont pas le moyen financier pour se payer les services d'un avocat. Renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. 3. Augmenter l'effectif des juges formés et des personnes suffisantes pour l'administration de la justice. Redéfinir le travail et le rôle de l'administration nationale unis par le pays. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes prêts pour les questions.
Well, questions will be presented later after the presentation by the state. Thank you very much for your presentation. Now I will give the floor to the state of Haiti for 20 minutes.
Au nom de la délégation haïtienne, je voudrais présenter et le secrétaire d'État chargé de la réforme judiciaire, qui est M. Daniel Jean, il est là, ainsi que M. Fortuné d'Orléans, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Ils sont là pour répondre et pour répondre à vos questions et aussi donner la position du gouvernement haïtien. Merci.
Merci, honorable membre de la commission. Ambassadeur et membre de la délégation haïtienne. Bon, c'est pour moi un plaisir de pouvoir représenter le pays et répondre de manière directe à certains questionnements ou du moins certaines revendications, particulièrement de la part de l'organisation présente à Crète. Me permettez, messieurs et dames, que je manifeste mon inquiétude par rapport à l'ensemble de ce qui est dit là, parce que c'est des déclarations, semble-t-il, qui demandent, bon, peut-être on aura le temps de voir le fondement de certaines déclarations, mais c'est tout simplement de simples déclarations à regarder l'exposé qui se fait là aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'un pays est un pays pauvre comme Haïti et n'a pas la possibilité de répondre financièrement à des exigences sociales, à des exigences économiques, ça veut dire pour autant le pays doit être épinglé et le pays doit être condamné parce que tout simplement on est pauvre. L'exercice auquel nous voulons nous prêter aujourd'hui est motivé par un double objectif. D'abord, permettre à tous et à toutes de comprendre la problématique des droits humains en Haïti. Deuxièmement, signifier la position de l'État haïtien et expliquer les actions entreprises ou à entreprendre suivant chaque palier de la problématique citée plus haut. Ces derniers temps, des acteurs divers aux intérêts variables interviennent à partir de médiums bien différents pour tantôt dénoncer, tantôt tenter d'expliquer la situation de la justice haïtienne, des droits humains ou le surencombrement des centres carcéraux et les conditions inhumaines de détention des prisonniers. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous invite à voir la réalité de près. Si l'on devait faire un regard rétrospectif du vécu haïtien dans l'histoire du pays, on verrait que on a fait beaucoup de progrès, parce que il n'y a pas une volonté déclarée de la part des représentants de l'État actuel pour que des situations de non-respect des droits humains puissent être perpétuées. Il n'y a pas non plus, et je mets quiconque en défi de le démontrer, une situation systémique de violation des droits humains. C'est-à-dire, non seulement les actes sont répétés, mais les actes sont organisés par les moyens, par l'appareil étatique. Et nous voulons pour preuve nombre de rapports des organisations internationales ou des organisations nationales de renom qui ont montré qu'on a fait de grands progrès en Haïti en qualité de droits humains. Pour parler de violation des droits humains, je ne suis pas en train de faire une leçon à personne, encore moins à la Commission. Mais non seulement il faut montrer que les faits incriminés sont systématiques, mais qu'il y a une volonté de s'y livrer. C'est-à-dire que les autorités haïtiennes se livrent à ces violations. Or, à entendre l'exposé de ce matin, les exposants reconnaissent eux-mêmes que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Mais permettez que je vous dise, permettez que je vous fasse comprendre que, bizarrement, Haïti, aujourd'hui, dont vous parlez, peut-être beaucoup d'entre nous ignorent encore ce pays-là. Il vaudrait mieux que l'on regarde un petit peu en chiffres ce qu'est Haïti aujourd'hui. Haïti, avec 27 750 km², plus de 70% de son territoire, avec une pente entre 20 à 60 degrés de montagne, entre 0 à 20% avec une pente de plus de 20 degrés. Ça veut dire que Haïti, dans sa majeure partie, est un pays enclavé et malgré sa vocation agricole, Haïti est en difficulté de nourrir ses nationaux. Or, c'est ce pays, aujourd'hui, avec un budget d'investissement de 200 millions de dollars, dont 68% de ce budget est promis par la communauté internationale. Donc c'est ce pays-là que vous demandez aujourd'hui de couvrir de manière efficace et adéquate plus de 315 kilomètres de frontière entre Haïti et la République dominicaine, de répondre à une couverture juridico-administrative et de permettre à ce que tout le monde ait accès aux tribunaux, aux offices d'état civil, à une structure sanitaire. Imaginez-vous un instant que vous avez beaucoup d'enfants et que vous avez peu d'argent. Quoi faire? Bizarrement, tout le monde parle de la situation de détention préventive prolongée. La problématique de détention préventive prolongée doit être creusée à la loupe. D'abord, regardons ce qui se passe. Haïti avait 21 centres carcéraux avant 2004. Mais quand on parle de centres carcéraux, c'est entre guillemets, parce que c'était de vieilles baraques de l'armée d'Haïti qui ont servi de centre carcéral. Et avant 2004, il y avait 4000 détenus pour l'ensemble du territoire national. En 2004, avec des mouvements politiques, les centres carcéraux, bon nombre d'entre eux, ont été mis à mal, certains complètement détruits. Et on est réduit aujourd'hui à 17 centres carcéraux. Et entre-temps, la population carcérale a plus que doublé, parce que à partir des années 90-2000, Haïti fait face à une situation qu'elle n'a jamais connue avant. Une situation de grand banditisme, une situation de délinquance, une situation de troubles extraordinaires où les enfants sont recrutés par des gangs et les enfants se sont livrés au pillage, au viol, au vol. Malheureusement, par notre pauvreté, nous sommes pris entre deux exigences. Une exigence, c'est de respecter les droits humains. Une autre exigence, c'est de faire en sorte que soit garantie la sécurité des vies et des biens. Et comment faire, sinon qu'avec les moyens du bord. On l'a bien dit, qu'on n'a pas de prison en Haïti, on n'a que des baraques de l'armée d'Haïti qui ont servi de prison. On a fait beaucoup d'efforts. On a demandé à nos partenaires internationaux de nous aider à ce que nous puissions arriver au moins, si ce n'est pas au minimum standard d'espace carcéral par détenu prévu par la communauté internationale qui est 4.5 mètres carrés, mais au moins d'arriver à certains endroits à 2.5 qui est l'exception acceptable en cas de crise ou de guerre proposée par la Croix-Rouge internationale. Donc, il n'y a pas une volonté délibérée de brimer les droits humains, mais tout simplement, Haïti, dans sa situation de pauvreté, est incapable aujourd'hui de répondre même aux exigences politiques qu'elle s'est fixées. Le gouvernement s'est fixé une exigence d'accessibilité à la justice. Quand on dit accessibilité à la justice, c'est accessibilité non seulement par coût, mais c'est accessibilité également par proximité. Or, aujourd'hui, la Constitution haïtienne demande à ce que l'on ait un tribunal de paix, un office d'état civil par section communale. On a 570 sections communales et jusqu'à présent, on n'a que 187 tribunaux de paix et offices d'état civil. Et si l'on regarde encore en chiffres ce que ça coûte, à 187 tribunaux de paix, aujourd'hui on a 713 juges de paix. Et si l'on prend les salaires, actuellement le gouvernement vient de faire un effort monstre pour que l'on respecte la dernière loi qui a été votée sur le statut de la magistrature. Un juge de paix, à partir de ce mois d'octobre, est passé de 18 000 gourdes à 54 000 gourdes. Prenez 713 multiplié par 54 000 gourdes, vous allez voir combien ça fait. Prenez un tribunal de paix avec secrétaire, avec greffier, avec huissier et regardez les salaires. Vous pouvez voir combien ça fait. Et tandis qu'aujourd'hui, avec plus de 8 000 fonctionnaires, l'État haïtien n'a pas les moyens de répondre aux exigences de sa politique. Aujourd'hui, c'est beau d'être de l'autre côté, d'être en face et de dire que tout va mal. C'est beau de faire des exigences. Mais maintenant, regardons qu'est-ce que nous avons comme recette. Regardons qu'est-ce que nous avons vraiment des promesses de nos amis internationaux. Et regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est pas que l'on ne veuille pas. C'est pas que l'on ne soit pas enclin à permettre à ce que les gens aient accès à un tribunal, que les gens soient incarcérés dans de meilleures conditions. Mais c'est tout simplement, nous n'avons pas les moyens. Si on prend la question de détention préventive prolongée, pour résoudre ce problème, il faut penser d'abord augmenter le nombre de juges, augmenter le nombre de commissaires du gouvernement, augmenter l'espace carcéral. C'est vrai. Actuellement, on est en train de faire beaucoup de choses. On est en train d'agrandir les espaces carcéraux. On est en train de créer des prisons. Mais c'est douloureusement que l'on est obligé de prendre cette décision. Parce qu'on est dans un pays où on a plus d'un million d'enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'école. Et on est bien obligé quand même de faire un choix entre faire des écoles et faire des prisons. Parce que la situation comme elle est, Haïti, avec maintenant, si l'on regarde le recensement de 2003
qui était de 8,5 millions d'habitants, avec une projection de 2,5 de croissance, ça veut dire que l'on avoisine maintenant plus de 10 millions d'habitants. Et jusqu'à présent, l'on ne peut pas parler de surpopulation carcérale. On a une sous-capacité carcérale. Parce que, à regarder la population, plus de 10 millions, jusqu'à présent, on n'a pas 9 000 personnes pour toute l'étendue du territoire en prison. Donc c'est tout simplement, on n'a pas de structure carcérale, c'est tout simplement, on n'a pas la capacité de mettre un tribunal dans chaque section communale, on n'a pas la capacité de doubler maintenant l'effectif des juges d'instruction qui sont au nombre pour toute la République à peu près d'une trentaine. Donc imaginez-vous un instant, plus de 8 000 personnes en prison avec plus d'une trentaine de juges d'instruction et regardez logiquement combien de cas un juge peut entendre pour une journée, pour un mois, pour une année. Donc la situation est telle qu'elle est. Mais le problème également, on est pris dans cet engrenage-là que l'on ne peut pas relâcher les prisonniers sous prétexte que l'on n'a pas d'espace carcéral. L'on ne peut pas décider de les relâcher si l'on n'arrive pas à des procès équitables. Parce que de toute façon, ça va créer des lésions, non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des particuliers. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que on est face à nos problèmes, mais nous essayons de trouver des solutions avec le faible moyen que nous avons. Et voilà pourquoi, au niveau du ministère de la Justice, on a essayé, non seulement avec la commission de détention, on est arrivé à faire une typologie des prisonniers, c'est-à-dire on a fini par les inventorier et les identifier. On a pris des décisions, des circulaires, des avis pour que les juges et les commissaires du gouvernement se mettent davantage au travail. On a réveillé au sein du ministère de la Justice la commission et la structure d'inspection judiciaire. On exige des rapports et jusqu'à présent, on peut dire, avec les assises que l'on a, avec les juges, avec le commissaire du gouvernement, on a fini par écouter certains délais et même colmater certains éléments et certains problèmes de corruption. On n'est pas au stade idéal, mais je pense qu'on a fait de grands progrès. Et on est prêt à faire encore d'autres, mais c'est sûr et certain, il faut qu'il y ait l'appui de tous, haïtiens, haïtiennes et les amis de la communauté internationale. Merci beaucoup.
Thanks to the representatives from the state of Haiti for your presentation. Now I will ask my fellow commissioners if you have any question. Commissioner Roberts, who is the reporter for Haiti.
Thank you very much, Mr. Chairman. It was particularly an attempt to set up, to grant more independence to judges and to set up a superior council of the judiciary. I wanted the state to tell us of the progress of that institution and also the training of the judges. The magistrate school, I gather, was opened earlier this year, and to tell the commission as to the status that it is functioning, what is happening in the terms of training of judges. And there are two areas that has been troubling, and that is the question of the number of persons detained but who have not appeared before a judge. And what concrete steps have been taken to minimize the number. The petitioners said 80% of the persons. It may well be even higher than that, but what concrete steps have been taken to tackle that problem? I know the distinguished representative from the state said that you can't just release the persons, but it is a very serious situation where persons are detained for long periods and they have not had the opportunity of appearing before a judge. It's really, you've been punished before you've been tried and convicted. And the other area had to do with the conditions of judges, because conditions, the working conditions, I'm thinking of salaries and equipment and what have you, and let us know what concrete steps have been taken in this direction also.
Commissioner Pinheiro.
Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu avec beaucoup d'attention la présentation de représentants de la société civile et du Monsieur le Secrétaire d'État. Je voudrais simplement souligner un point, que c'est justement la question de la séparation des enfants et adolescents de prisonniers adultes. Je crois que tous les pays au monde sont tiraillés de la même forme qu'Haïti entre la sécurité et assurer le droit de l'homme. Je ne crois pas aussi que ce n'est pas un choix entre assurer le droit d'éducation à 1 million d'enfants et gérer la situation de moins de 300 garçons et filles mineurs en situation de conflit avec la loi. Je crois qu'en connaissant un peu Haïti et en connaissant un peu la population au monde des enfants dans des institutions, très probablement plusieurs dizaines de ces garçons qui sont dans des prisons ne devaient pas y être, ne devraient pas y même être institutionnalisés. Et donc, la question que je vous pose en toute solidarité et sympathie, parce que, comme vous le savez, le comité des droits de l'enfant plusieurs fois a mentionné dans les observations à l'État, aux États, que la question de la pauvreté de ressources ne peut pas être une excuse pour ne pas assurer le droit de l'enfant. Donc, je crois que la séparation de moins presque 250 garçons et filles de prisonniers adultes, c'est quelque chose qu'avec une certaine imagination et créativité peut être assuré. Et la dernière chose que je dirais, parce que aussi c'est une très mauvaise politique de laisser de délinquants mineurs en contact avec des prisonniers ou d'un condamné. C'est justement quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la sécurité de la société. J'aimerais bien savoir s'il y a dans vos plans d'aménager cette situation, même si immédiatement, par magie, on ne pourra pas séparer tous, mais au moins essayer avec les moyens limités que vous avez de ne pas continuer à loger ces garçons et filles en compagnie avec des prisonniers adultes. C'est quelque chose que ce n'est pas simplement en Haïti, ça passe partout dans le monde. Et c'est toujours quelque chose que le comité et aussi UNICEF a toujours quelques moyens pour aider à contribuer pour cela et le rapporteur pour les droits de l'enfant et la commission ne sont pas ici pour épingler ni condamner l'Haïti, mais justement de trouver de façon justement à aider, par exemple, à surmonter ces problèmes. Je vous remercie.
Thanks, Commissioner Pinheiro, our fourth language speaking commissioner. I will give the floor now to the petitioners for 5 minutes, so you can answer the questions and raise additional observations if you have any, and then 5 minutes to the state.
Merci. Bon, nous n'allons pas faire trop d'étalage des questions posées parce que je pense que c'est facile de comprendre et de déterminer la position de l'État haïtien en Haïti. Bon, je parle de l'État, mais je pense que c'est un mot que j'utilise. Parce que un État, est-ce qu'il... Ça paraît un petit peu difficile à expliquer. Parce que un État, mesdames et messieurs, dans un pays, ce sont des responsables. Ce sont des responsables. Et je pense que ce ne sont pas nous seulement qui venons ici pour demander à l'État de prendre sa responsabilité. Chaque fois, les organisations nationales ou les ONG qui défendent les droits humains en Haïti demandent à l'État de faire valoir de sa présence. Et c'est ce que nous réclamons encore. Parce que c'est l'absence de l'État total dans sa manière de fonctionner. Je viens d'écouter le représentant de l'État qui parle. J'ai l'habitude, alors nous avons l'habitude d'écouter ces genres de propositions, ces genres d'étalages. Mais chaque fois qu'une organisation demande de justice, c'est toujours les mêmes questions. L'absence de l'État. L'absence de l'État. Et je vous assure que, en octobre, si Dieu veut, octobre 2010, nous serons encore ici pour demander à l'État de prendre sa responsabilité. C'est que nous voulons que l'État fait son travail pour prouver sa présence réelle. C'est ce que nous avons dit pour prouver sa présence réelle. Merci.
Thanks. Now, I give the floor to the state.
Je voudrais de manière chronologique répondre aux questions. D'abord pour les questions qui ont fait référence au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. À l'école de la magistrature. Rapidement, je le dis. L'État haïtien, par le biais de son gouvernement, avait pris l'initiative de résoudre le problème de l'autonomie du pouvoir judiciaire posé depuis plus d'un siècle. Parce que le pouvoir judiciaire, en dépit du fait que toute la constitution haïtienne parle de pouvoir, mais le pouvoir judiciaire est toujours à la remorque du pouvoir exécutif. Sous la gouvernance du président Préval, on a décidé que l'on arrive à un pouvoir judiciaire indépendant. Mais lorsqu'on parle d'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est non seulement indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs de l'État, mais l'indépendance du pouvoir judiciaire surtout par rapport aux forces corruptrices d'argent, par rapport à la drogue. Bon, voilà pourquoi on a été
l'architecte de trois textes de loi qui marquent la réforme. La loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui donne autonomie administrative et autonomie de fonctionnement au pouvoir judiciaire. La loi sur l'école de la magistrature, qui fait une obligation pour que l'on soit juge dans ce pays, il faut que l'on passe par l'école de la magistrature. La loi sur le statut de la magistrature, parce que les magistrats, qu'ils soient assis ou debout en Haïti, jusqu'à l'arrivée de cette loi, n'avaient pas statut de fonctionnaire. Donc, on devait envisager un statut particulier conféré au pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on a fait. On a initié, au regard de la loi, il fallait faire un vetting au regard de la loi. Les dispositions transitoires ont demandé à ce qu'il y ait un vetting, c'est-à-dire une certification des membres et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ça a été une procédure assez longue parce qu'il fallait non seulement évaluer leur capacité intellectuelle et professionnelle morale, mais également leur rapport avec la société, l'argent, la corruption et tout ça. Ça a pris un temps. Maintenant, après le processus de certification, le ministre de la Justice a remis un rapport au président de la République et à la première ministre. Donc, il reste maintenant le moment pour que le président de la Cour de cassation soit nommé. Mais je vous fais remarquer une chose. Actuellement, au niveau même de la Cour de cassation, au regard même de cette nouvelle loi, la majorité, pour ne pas dire 90% des membres actuellement potentiels présents au niveau de la Cour de cassation, dépasse largement l'âge prévu par cette loi. D'où un autre handicap. Un deuxième handicap. La loi ne permet plus que les avocats viennent par soit concours au niveau de la Cour de cassation. Il faut que ce soit un juge au niveau de la Cour d'appel qui monte en cassation. Et les cinq cours de cassation, les cinq cours d'appel de la République, on a des déficits en nombre parce que jusqu'à présent, il y a le problème de ressources qui pose encore en Haïti. Parce que les cadres haïtiens, le fait que l'État n'a pas les moyens de les payer, très souvent, les cadres haïtiens sont des cadres nomades. Deuxième question. Par rapport aux chiffres avancés, 80% de détenus sont en détention préventive prolongée. En Haïti, très souvent, les gens manipulent les chiffres, les gens disent n'importe quoi par rapport aux chiffres. Là, je pense que j'invite la commission à avoir un petit peu de recul par rapport aux chiffres avancés. D'abord, il faut que les chiffres aient une date, il faut que les chiffres puissent être vérifiés. Actuellement, il y a un grand effort qui a été fait, parce que on ne fait pas la différence entre détention préventive prolongée qui est illégale et détention préventive. Au regard de la loi haïtienne, il y a deux formes de détention préventive. Une détention préventive qui est légale, c'est-à-dire au regard de la loi, tant que le juge ou l'autorité juridico-administrative est encore dans le délai de l'enquête ou encore dans le délai pour déférer la personne à l'instance de jugement, eh bien, c'est une détention préventive, mais qui est légale. La détention devient prolongée et illégale, c'est lorsque l'on tombe en dehors de ces délais. Et très souvent, il y a une confusion totale entre la détention préventive illégale et la détention préventive légale. Là, j'invite un petit peu à la prudence. Mais ce dont je peux rassurer la commission, c'est que non seulement l'on a imposé au regard de la loi la double vacation en termes de travail pour les juges sur le plan pénal, ça nous a aidé cette année à un petit peu déblayer le terrain, mais en plus, au niveau du parquet de Port-au-Prince, on a institué une chambre d'affaires correctionnelle qui fait à ce que toutes les personnes qui sont tenues en flagrant délit, ou du moins qui sont là pour simple délit ou des vétilles, eh bien, ils passent directement en instance de jugement. Voilà pourquoi, entre août, septembre, octobre, on a entendu au niveau de cette chambre-là plus d'une centaine d'affaires. Et des gens ont été, certains ont été libérés, mais certains ont été condamnés également. Par rapport à la condition de travail des juges, tout à l'heure je l'ai dit, à partir du budget 2009-2010, eh bien, on vient d'appliquer au regard de ce budget-là la loi. Parce que la loi a demandé à l'État haïtien que les salaires des juges soient indexés au même au salaire des parlementaires, du Sénat. Donc le président de la Cour de cassation doit avoir le même salaire que le président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. Et ceci avec un pourcentage décalé. Voilà pourquoi je vous dis, les juges de paix sont passés de 18 000 gourdes à 54 000 gourdes au niveau du budget 2009-2010. Par rapport au matériel, tous les chefs de juridiction, je parle des doyens et des commissaires du gouvernement de première instance, ont reçu pour leur fonctionnement un véhicule de travail. Et le palais de justice vient d'être totalement rénové avec l'argent du trésor public. L'on avait des petits tribunaux de paix dans des bicoques, etc. Avec le gouvernement haïtien, maintenant, on a institué un binôme administratif, tribunal de paix, office d'état civil. Et on a ajouté l'Office national d'identification parce que pour résoudre le problème de l'état civil, on essaie maintenant de travailler, de conjuguer et des efforts des officiers d'état civil avec le Bureau national d'identification. Voilà pourquoi maintenant les nouveaux tribunaux qui sont en train d'être construits, répondent à ces exigences et de la vision de justice et également à toute la logistique qui marche avec. Et l'on a essayé, au niveau des endroits reculés, d'initier ce que l'on appelle la justice itinérante. La justice itinérante, c'est permettre à un juge de paix de laisser le tribunal et d'aller directement là où la demande se fait sentir pour donner une réponse au justiciable. Par rapport à la question de mineurs, je l'ai bien dit, on n'a plus de mineurs qui soient dans une situation avec des adultes, lorsque je parle de garçons. Regardez Delma 33, et actuellement, on est au point d'achèvement d'un méga projet qu'on appelle le centre de réinsertion pour des enfants en conflit avec la loi, que l'État n'a pas les moyens pour le faire, mais avec un secteur privé, l'État s'est organisé dans une coopération. Maintenant, le pavillon des filles est presque achevé, et d'ici un mois ou deux, les filles ne seront plus à Pétionville. Les garçons, le pavillon des garçons va être construit, mais je dois vous dire que ça prend beaucoup d'argent. On est en train de faire des efforts pour que nos enfants ne soient pas obligés d'être en prison. On est en train de faire des efforts pour que l'on puisse donner à notre détenu au moins un minimum 2,5 pour arriver au minimum standard de 4,5 mètres carrés par détenu. Parce que la situation actuelle, nous en sommes conscients, est plus que révoltante. Au regard du pénitencier qui est à moins de 0,51 mètres carrés par détenu, nous en sommes conscients. Mais comme je vous le dis également, la situation galopante et du banditisme en Haïti oblige l'État de prendre des décisions. Et si la justice et la police faisaient leur travail, on aurait beaucoup plus de personnes en prison. Parce que aujourd'hui, le grand déficit de notre système pénal, c'est que nous n'arrivons pas à fidéliser nos moyens de preuve qui est essentiel, qui sont essentiels dans la justice pénale. Le statut médico-légal jusqu'à présent n'est pas à point. On n'a qu'un seul médecin légiste pour toute la République. Deux autres qui sont et qui ont été des boursiers de l'État sont en train de voir comment avancer. Mais le médecin légiste d'expérience, il n'y a qu'un. Par rapport maintenant aux techniques modernes de preuves telles que les empreintes digitales, etc., jusqu'à présent, ça coûte très cher et nous nous battons encore pour avoir un système fiable.
Thank you very much to both parties for the information you have provided, and we will welcome any further information you can send the commission to follow up on the issues analyzed in this hearing. We'll adjourn this hearing and we'll continue in 5 minutes. We are going to start the